Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, nous allons consacrer la première partie de cette émission à Brocéliande qui débarque ce soir sur TF1, la série événement de cette rentrée avec Nolwenn Leroy. Dans un instant, Juliette Ayat, la productrice, et Bruno Garcia, le réalisateur, seront avec nous pour en parler. Et puis, deuxième coup de cœur télé aujourd'hui pour Fortune de France qui démarre ce soir sur France 2. Christopher Thompson et Nicolas Dubochel seront nos invités exceptionnels pour en parler. Ça a été un carton vendredi dernier, plus de 4,3 millions de téléspectateurs sur France 2. Simon Coleman, Jean-Michel Tinivilli était avec nous lundi dernier. Eh bien, nous recevrons les rôles de Chloé et d'Inès. Flavie Péan va nous rejoindre dans un instant avec Lani qui joue le rôle de Inès. Et puis nous aurons le plaisir également d'accueillir Carole Richert pour sa riche rentrée entre le tournage de Clem et tout ce qui l'attend. On va évoquer tout ça bien sûr avec elle. Et puis en exclu podcast aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Olivier Lejeune qui nous parlera de toute sa rentrée et de ses nombreux projets. Et puis Sophie Bontemps également qui proposera Détenu à ciel ouvert cette semaine dans Infrarouge sur France 2 viendra également nous présenter son documentaire. Et une dernière partie très attendue évidemment puisqu'elle sera consacrée au palmarès complet de cette édition 2024 du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle avec les réactions exclusives des lauréats dont Michael Youn ou encore Frankie Wallach qui est à l'affiche de À l'épreuve, le téléfilm primé, meilleur unitaire de cette compétition. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à Brocéliande qui démarre ce soir sur TF1 pour ce 16 septembre. On a la chance d'avoir une des productrices de la série qui est avec nous, Juliette Ayat. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être là. Et Bruno Garcia, le réalisateur de ces 6 fois 52 minutes qu'on va découvrir dès ce soir. Bonjour Bruno.
Salut.
Merci d'être là tous les deux. On va découvrir cette biologiste Fanny Le Goff qui revient sur ses terres plus de 15 ans après avoir été accusée de la disparition de sa meilleure amie dans des conditions relativement troubles. Et après avoir reçu une hache, elle va revenir sur ses terres pour essayer de démêler le vrai du faux. Et une jeune fille, une de ses élèves, va disparaître dans les mêmes conditions. Plein de mystères, de rebondissements. C'est vraiment tous les ingrédients un peu de la saga d'été par excellence, hein.
Bah écoutez, voilà, c'est ça. On est parti avec cette idée en tête de renouveler, de revenir à la saga. C'était un choix, une envie très forte de TF1. Mêler du mystère, du suspense et en même temps tout ça dans un décor absolument sublime qui est la forêt de Brocéliande.
Ah, la Bretagne est mise à l'honneur, elle est filmée merveilleusement bien, mon cher Bruno, ça on peut le dire. Mais alors, le choix inédit ouais. De Nolwenn Leroy, quand même, ça c'est extraordinaire parce que non seulement on découvre une autre facette de la chanteuse qui s'avère être une excellente comédienne, franchement.
Eh ben, oui. Nolwenn est une très très belle surprise.
Et je pense que ce le sera pour pas mal de gens. Et elle avait une petite expérience déjà de fiction pour avoir participé à une fiction France Télévisions. Et là, l'enjeu était quand même assez costaud puisque 6 x 52 pour Nolwenn, 60 jours de tournage, 6 épisodes de 52 minutes, le rôle principal, elle était quasiment là tous les jours et on a eu affaire à une personne très professionnelle, toujours disponible pour tout le monde sur le plateau. Il faut dire aussi que Nolwenn a été très très bien entourée par un casting choral que vous allez découvrir et que des acteurs et actrices très très bienveillant à son égard et Nolwenn a su justement travailler avec ces gens-là, parfois les écouter. Ce sont pas des gens qui ont donné des leçons, ce sont juste des gens qui ont réussi à l'aider à faire en sorte qu'elle soit le plus crédible possible et le plus proche du personnage qu'elle était censée incarner. Mais très franchement, pour moi en tant que metteur en scène, en tant que réalisateur, ça a été une très 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 belle rencontre, une très belle découverte et très franchement. Si on me dit demain Nolwenn, mais j'y retourne à fond, bien sûr. Quoi.
Alors, c'est ça. Alors pour la petite histoire, tu avais failli tourner avec elle. Je sais que tu rêvais depuis longtemps de faire tourner Nolwenn Leroy justement. Et donc c'était pas fait pour diverses raisons. Mais là, c'était vraiment le moment peut-être déjà aussi pour elle de se sentir légitime aussi. Mais surtout Juliette, est-ce que en tant que productrice, on peut avoir quelques réticences? Est-ce que on se dit tiens, on prend un risque ou pas? Ou est-ce que dès les premiers rushs, tout ça s'est balayé, tous ces doutes?
Alors déjà, évidemment, dès les premières heures, dès les premières minutes du tournage, c'était balayé, mais bien avant en fait, parce que dès que j'ai pu rencontrer Nolwenn, elle avait lu le projet qui au départ tenait en quelques pages, hein, quand elle a donné son accord, avec évidemment les personnages et son personnage qui était exactement le personnage de Fanny Le Goff, donc elle était très emballée, elle avait très envie. Mais déjà, lorsque je l'ai rencontrée, dès les premières fois et que j'ai vu qui était Nolwenn, moi je la connaissais pas du tout, tout de suite j'ai été rassurée, parce que j'ai vu que c'était quelqu'un d'extrêmement consciencieuse, rigoureuse, honnête, très engagée dans ce qu'elle fait, et donc je savais qu'elle allait tout donner, ce qu'elle a fait. Donc elle a beaucoup travaillé en amont, elle s'est beaucoup investie, et puis dès qu'elle a pu vraiment rencontrer évidemment à la fois les auteurs Bruno et puis après tous les autres comédiens et comédiennes avec elle, c'était un bonheur. Pour moi, c'est Nolwenn Leroy, actrice. Là, il y a aucun doute.
C'est clair. Moi qui ai eu la chance de voir déjà les deux premiers épisodes que vous allez voir ce soir, c'est vrai que vous allez être bluffé. Ça, c'est certain. Brocéliande, ça démarre à 21h10 sur TF1. On écoute la bande-annonce. On revient juste après avec vous. À tout de suite.
Je me suis réveillée dans la forêt il y a 20 ans. À vivre avec le doute et pas savoir si c'est moi qui ai fait du mal à Laura. J'étais quand même sa meilleure amie.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me souviens plus de rien.
Tout le monde réclame toujours un coupable.
Si Laura est toujours en vie, elle devait avoir une bonne raison de se cacher.
Moi, je pense que ça vous arrange d'avoir oublié.
Pourquoi vous continuez à m'accuser?
J'ai l'impression que ma mère me cache des choses.
Parfois, on ment pour protéger ce qu'on aime.
La vérité, elle est forcément en moi quelque part.
Brocéliande, la saga de la rentrée, prochainement sur TF1.
Allez, spécial Brocéliande, ça démarre ce soir sur TF1. Juliette Ayat, la productrice, et Bruno Garcia, le réalisateur, sont avec nous. Alors, on va voir évidemment qu'à la fin de cette soirée, il va y avoir plein de rebondissements, mais surtout, c'est que le corps de Laura n'a jamais été retrouvé au bout de toutes ces années d'investigation, et qu'aujourd'hui, il y a un mystère qui plane autour du corps de cette jeune fille. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas si elle est toujours vivante, finalement, et c'est peut-être le doute qui va être levé aussi. Il y a plein de choses qui vont se passer, donc finalement, pas de corps, pas de meurtre dans un premier temps, c'est plus une disparition.
Voilà, tout à fait. Au départ, on ne sait pas du tout. La seule chose qu'on sait, c'est que visiblement, le mystère plane toujours, ça c'est sûr. Et puis qu'il y a des nouveaux éléments qui arrivent au moment où la série démarre et qui vont à nouveau impliquer notre héroïne qui est Fanny Le Goff, donc Nolwenn, qui va, ces éléments qui vont la pousser évidemment à cette fois-ci, maintenant qu'elle est adulte, à chercher, à fouiller, à tenter de comprendre malgré tout. Et évidemment, il y a du mystère, du danger, et puis plein de personnages autour qu'elle va retrouver, des gens qu'elle a beaucoup, quasiment jamais revus, et qui vont tous, pour des raisons différentes, ne pas être totalement clairs, quoi. Voilà, c'est ça qui va nous tenir en haleine.
Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a l'impression que chaque personnage recèle des secrets. Alors, il y a un casting autour de Nolwenn qui est juste fou. Arnaud Binard, Catherine Marshall, on peut en citer plein, mais c'est franchement, il y a un grand nombre de comédiens totalement hallucinants, talentueux. Le casting est fou, quoi. Ça doit être une fierté, ça, quand même, pour vous deux.
Tout à fait. C'était aussi un objectif très important, c'était de réussir à réunir autour du personnage de Nolwenn ces personnages tels qu'ils avaient été créés par les créateurs, par les scénaristes, pardon. Et du coup, ça nous a permis de faire un casting magnifique. Bruno était très très vigilant à ça, à toutes les étapes, aussi bien pour les rôles principaux que pour les rôles secondaires. Et tous les comédiens qui sont dans la série Brosséliande sont tous des comédiens de talent, et ça c'est super.
Ouais, j'ai trouvé aussi Rebecca Benhamour très bon choix, parce qu'évidemment tous les fans d'Ici Tout Commence vont être ravis de la revoir dans un autre projet, mais elle incarne Nolwenn jeune, et tous les comédiens qu'on voit jeunes et qu'on voit après un peu plus âgés, c'est très très bluffant en fait. Hein.
Oui. Et d'ailleurs j'en profite pendant que j'y pense pour citer nos trois auteurs qui sont quand même la genèse à l'origine de ce projet. Donc Isabelle Paulin, Éric Delafosse et Thomas Boulet qui ont fait un travail formidable, et sans eux, faut les saluer, parce que sans eux, il y aurait pas eu de Brosséliande et on serait pas là. Et je trouve qu'on a tendance souvent à ne pas parler d'eux, et c'est quand même un projet qui sort de leur cerveau, et voilà, et c'est un projet qui est justement très très riche, mené par toute cette troupe d'acteurs dont tu viens de parler, Alain, et qui sont tous formidables, parce qu'ils correspondent parfaitement à ce qu'on avait envie d'avoir autour de Nolwenn. On peut citer aussi Marianne Chazelle, qui est une femme formidable.
Qui joue la maman de Fanny, pareil. Le Goff.
Qui joue la maman de Fanny, donc la maman de Nolwenn, et qui, dans l'histoire, et qui est juste un bonheur à travailler, et un bonheur dans la vie, et bien sûr, Thomas Joynet, Catherine Marchal, Rebecca Benhamour, Margot Ekman, Mehdi Sadoun, qui est là aussi,
ouais.
Notre Mehdi que tu connais bien.
Bien sûr.
Et qui, pareil.
Qui était au festival de la fiction télé la semaine dernière, d'ailleurs.
Ouais, exactement. Donc voilà. Donc, que du plaisir. Ça restera un très bon souvenir, quoi, vraiment.
Et je complète en disant effectivement que à propos de l'écriture, que on a une chance en France d'avoir d'excellents scénaristes, et que le bonheur, ça a été vraiment de faire d'écrire cette série originale qui est française. Donc, qui sort de la tête de nos auteurs français et qui se passe dans une région magnifique, qui est la région Bretagne, qui d'ailleurs nous a soutenus financièrement pour Brosséliande.
Il faut dire que vous avez bien mis les paysages en valeur. Alors, vous m'avez devancé, parce que ma dernière question, c'était savoir tout à l'heure qui avait eu l'idée, en tout cas de cette histoire. Et donc voilà, c'est très bien de pouvoir mettre ces trois auteurs à l'honneur aussi, parce que franchement, ils nous ont écrit une histoire qui nous tient en haleine. On va découvrir en tout cas les deux premiers épisodes de Brosséliande. C'est ce soir à 21h10 sur TF1. Et c'est parti pour trois semaines de suspense. Et sans dévoiler quoi que ce soit, je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises, hein.
Écoutez, non, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Normalement, tout est fait pour que vous n'ayez absolument pas envie de lâcher et qu'on se retrouve tous devant nos postes tous les lundis pendant trois semaines. Voilà. Et je précise que cette aventure a été produite en collaboration avec Dominique Farrugia, Shine Fiction. Voilà, les films du printemps et Shine Fiction pour Brosséliande.
Et ben voilà, Brosséliande, c'est ce soir sur TF1, ne le rate pas. Merci beaucoup Juliette, merci à Bruno d'avoir été avec nous. Et puis on croise les doigts évidemment pour 9h demain matin, je sais que vous allez avoir les yeux rivés sur Médiamétrie, mais j'ai confiance.
Ok, merci Alain, merci beaucoup.
Belle journée à vous, et puis on vous dit à très très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, ne bougez pas, dans un instant, Nicolas Duvauchel, Christopher Thompson ou encore Flavie Péan nous rejoignent, et on va parler de Fortune de France ou encore de Simon Coleman. Et puis ne ratez pas la dernière partie de l'émission avec le palmarès complet de cette édition 2024 du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
Le grand escalier avec ses pierres mal attachées, même si je dois me brûler les pieds, je vais me lâcher, éviter les cactus à côté, je vais m'asseoir sur mon rocher, reprendre ce que la vie m'a ôté, et toi mes côtés. De m'estropier, inviter les cactus à manger. Rendre à la vie ce que j'ai ôté. Et rendre au monde ce qu'il m'a donné. Et toi à mes côtés.
C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé ce soir est consacré à Fortune de France qui débarque sur France 2. Vous allez pouvoir découvrir les deux premiers épisodes de cette fiction historique qui a été tournée beaucoup en Dordogne par Christopher Thompson, qui est justement notre invité, à qui on doit déjà Bardot par exemple. Bonjour Christopher.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Fortune de France raconte l'histoire de la famille de Siorac. Il y a toute une épopée évidemment historique. Aujourd'hui, faire une fiction en costume historique en Dordogne, c'est le top quand même. Au niveau des décors déjà, c'est incroyable.
Alors pour moi, c'était un rêve depuis longtemps de tourner cette histoire. C'est une série qu'on a tournée intégralement en Dordogne, dans les décors naturels, dans des châteaux autour de Sarlat, au château de Beynac, au château de Fénelon, enfin pour ceux qui connaissent. Mais donc c'est vraiment, toute la série est vraiment imprégnée de cette région, de ces vieilles pierres, de ces châteaux, et ça a été vraiment un apport et une inspiration pour nous. Mais c'est un feuilleton, c'est une série historique, comme on dit, mais c'est surtout l'histoire d'une famille qui se trouve, vit au XVIe siècle dans un pays qui est déchiré par les guerres de religion, mais ce qu'on raconte, c'est vraiment le cœur de cette famille, les enfants, les adolescents, les parents, tous ces rendez-vous de la vie qui se heurtent au chaos de l'histoire.
Alors oui, parce que si on est projeté quand même dans le Périgord noir en 1557, on est au château de Mespèche, qui est cerné par un monde, on va dire, compliqué à cette époque-là, qui est complètement dévasté par les guerres des religions, effectivement, et où le personnage principal, la famille de Siorac, se bat pour sa survie, hein, en quelque sorte.
Oui, on raconte une communauté. On est loin des grands, loin de la cour, loin des puissants, et c'est ce château où il y a les patrons et ceux qui travaillent pour eux, les maîtres et les serviteurs qui vivent ensemble, qui forment une communauté, qui forment un écosystème, un microcosme. Voilà, les enfants qui grandissent et malheureusement cette guerre de religion qui déchire le pays, c'est-à-dire où les gens vraiment tuent au nom de Dieu et s'entretuent, et c'est une violence extrême, petit à petit s'immisce à l'intérieur de la maison, au point que on commence à assister à une guerre de religion domestique, et voilà, la famille est petit à petit gangrénée par ça et doit effectivement trouver des solutions pour s'en sortir.
Exactement, et se réinventer. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, d'explorer cette partie-là dans le Périgord noir, 1557, l'histoire des Siorac?
Moi, j'ai lu ces livres quand j'étais adolescent. Ça m'avait marqué. J'ai dévoré ça, j'ai dévoré les livres qui ont suivi. Le premier roman est sorti en 77, je pense que j'ai dû le lire moi quand j'avais 12 ans, en 78. Et ça m'est resté comme les grands romans d'Alexandre Dumas qui nous font découvrir l'histoire de France à travers l'histoire intime de personnages. Et ça m'a fait le même effet, c'était un grand roman initiatique où on assiste à des enfants qui découvrent l'amour, qui découvrent la vie, qui grandissent, qui découvrent aussi la violence du monde et comment se débrouiller comme ça, qui observent leurs parents. C'est une histoire d'une très grande richesse où je me suis dit aujourd'hui que je pouvais y apporter beaucoup de modernité et beaucoup de choses qui nous ressemblent, qui ressemblent à notre époque, qui ressemblent aussi à nos vies quotidiennes, parce que c'est souvent les mêmes problèmes qui se posent, couple, de parentalité, d'enfants qui quittent la maison, qui grandissent, qu'est-ce qu'on leur transmet.
C'est une belle transition parce que c'est ce que j'allais dire justement dans cette histoire historique, il y a quelque chose de très contemporain dans notre façon de la raconter, de la filmer en tout cas.
Oui, parce que c'est aussi un regard de moi et des gens avec qui j'ai travaillé, de nous, qui vient d'aujourd'hui. Voilà, on est en 2024 et c'est une notre façon de regarder à la fois une époque et les grands thèmes qui traversent cette époque et de trouver des liens et des ponts avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais tout en étant très fidèle historiquement et en passant toujours par les personnages, la vie quotidienne de ces personnages, qui vivent, les aventures qu'ils vivent, les tourments et aussi les joies. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses dans cette série, il y a beaucoup de vie, il y a aussi de l'humour, il y a aussi beaucoup d'émotions. Il y a de la vie.
Il y a beaucoup de choses qui passent en tout cas dans cette famille, qui se passent. Et c'est ça qu'on va découvrir en tout cas. J'ai eu l'impression de voir un peu une petite histoire dans la grande histoire aussi à travers cette famille-là.
Oui, c'est cette expression un peu consacrée, la petite histoire dans la grande. C'est vraiment le cas parce qu'on est à la campagne, on est dans le quotidien, on a fait beaucoup attention. C'était vraiment important pour moi qu'il y ait les objets du quotidien, les gestes du quotidien, que à chaque fois j'ai travaillé avec les équipes de artistiques, avec la décoration, les costumes, que ces choses soient palpables, soient sensuelles, qu'on comprenne comment les gens se lavaient, comment les gens se brossaient les dents, comment les gens mangeaient, ce qu'ils mangeaient, voilà, qu'on soit vraiment dans la vie, à l'intérieur de la vie de ces personnages.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre des producteurs, une chaîne de télé ? On a eu tout un moment où les fictions historiques, ça coûte cher, c'est fiction en costume, etc., c'est compliqué à faire. Aujourd'hui, on a l'impression que ça revient. Est-ce que ça a été facile de convaincre des producteurs, en tout cas, et des diffuseurs de vous suivre dans cette aventure ?
Ça n'a pas été facile parce que c'est pas disons que c'est pas à la mode. Voilà, pour moi c'est très moderne, mais c'est pas à la mode. Donc ça n'a pas été facile et il a fallu que France Télévisions, Delphine Ernotte, Alain Holmes, les gens qui sont à la tête de France Télévisions me fassent confiance et ils m'ont apporté un énorme soutien, une énorme confiance alors que c'était pas facile parce qu'on n'est pas dans les on va dire dans les rails de ce qui se peut se faire, mais on est dans quelque chose qui je crois qui aussi nous rappelle les grands feuilletons qu'on a connus avant à la télévision, à la télé française, mais c'est une version contemporaine de ça et je pense que ça fait du bien de retrouver ça aussi.
Exactement. Christopher, on va recevoir dans un instant Nicolas Dubochel. On va écouter la bande-annonce de Fortune de France qui débarque ce soir sur France 2 et qui est déjà en intégralité sur France.tv où vous pouvez découvrir la série si vous avez hâte de savoir la suite. Vous allez pouvoir, comme on dit aujourd'hui, binge-watcher. Merci Christopher. On termine par vos projets. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui arrivent pour le cinéma, la télé ?
Mes projets, c'est déjà d'accompagner Fortune de France avec cette première diffusion ce soir et puis de penser à la suite de cette série.
C'est la Fortune de France 2.
Ouais, peut-être bien.
On a hâte, on se retrouve très vite. Merci beaucoup Christopher. Et dans un instant, Nicolas Dubochel nous rejoint. Tout de suite, bande annonce.
Et c'est dans l'union que la vérité triomphera.
1557, la France se déchire entre catholiques et protestants.
Le royaume est au bord de la guerre civile, au nom de Dieu.
Un jour, vous avez déclaré qu'à Mespèche, nous sommes une famille. Et une famille qui se déchire, c'est plus une famille.
Fortune de France, d'après l'œuvre de Robert Merle, bientôt sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, le personnage principal nous a rejoint. Oui, il est là, monsieur de Surac, Nicolas Dubochel. Il est là. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis très content de te recevoir à nouveau. dans cette émission pour parler de cette série historique, série en costume, série ambitieuse, que peut-être certains d'entre vous ont déjà découvert sur France.tv. En tout cas, ce soir, c'est les deux premiers épisodes sur France 2.
Ah bah, je suis très content du projet, et puis je suis très content que les gens puissent le découvrir enfin, parce que c'est vrai qu'on fait, quand même ce métier pour que les gens puissent le voir au maximum, et on a tellement donné dedans que j'ai hâte d'avoir les retours et puis de savoir si les gens ont aimé, parce que moi j'ai adoré.
Quand t'as lu ce personnage de Monsieur de Surac, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui tout de suite?
Bah déjà que ce soit une série historique, moi j'aime beaucoup l'histoire, donc déjà rien que de faire une série sur l'histoire de France, moi je trouve qu'on a une tellement belle histoire de France que c'est bien de la raconter et de pouvoir faire revivre cette époque. Et il y avait quelque chose de qui a été très immédiat quand Christopher m'a proposé ça. J'ai dit oui tout de suite en lisant. Je crois que j'ai lu le premier épisode, j'ai dit oui directement, et il y avait voilà les costumes, les décors naturels, les chevauchées, les batailles. Il y avait quelque chose de que j'ai toujours eu envie de faire. C'était un rêve de gamin. Donc moi je voulais faire une série sur le Moyen Âge, mais là on est à la Renaissance. Mais il y avait quelque chose de qui est pas très loin et qui me plaisait beaucoup et qui m'enthousiasmait vraiment.
C'est presque le rêve de tout comédien, justement, de pouvoir se mettre dans la peau de personnages ayant existé ou d'époques ayant existé. C'est un métier unique pour ça.
Ah bah oui, ça, je sais pas où on peut faire ça d'autre que dans le métier d'acteur. Donc il y avait quelque chose de... Ouais, c'est un beau cadeau que nous a fait Christopher et j'ai pas hésité, quoi. Comme je disais, il y a un truc très enfantin. Bon, déjà, le jeu, c'est quelque chose de l'ordre de l'enfance, hein, de jouer à la comédie ou jouer dans des films, un truc de l'enfance. Mais là, c'est encore plus proche parce que tout le monde a joué au chevalier quand on était plus petit. Donc là, t'as vraiment l'impression d'être un gamin de 10 ans. Donc c'était vraiment jouissif de se retrouver. Et puis toute la troupe, tous les comédiens dedans, les décors naturels dans cette si belle Dordogne que je connaissais un peu, mais vraiment découvert là. Le pays aux mille châteaux, comme on dit, mais c'est tellement, cette vallée est tellement belle, escarpée, en même temps accueillante, en même temps parfois effrayante. Il y a quelque chose de... Et on passe par mille lieux qui se ressemblent et qui se ressemblent pas en même temps. Il y a quelque chose de sublime, quoi, moi, que j'ai adoré. Et puis on mange bien en plus, donc
Bon, si le château de Bénac a été surtout tenu par notre ami Grégory Fitoussi, toi c'était plutôt le château de Fénelon, t'as beaucoup tourné.
Exactement, c'était le Mespèche dedans, le château de Mespèche comme il s'appelle dans la série. Et ouais, un château qui est dans son jus comme ça, avec une très belle salle de réception, on va dire une salle à manger qui est formidable, avec une très belle cheminée. Et on a fait toutes les scènes de tablé sont là-bas. Il y avait quelque chose de palpable. Et puis, on sent l'histoire à travers les murs, ça transpire. Et voilà, les portes sont d'époque, la cheminée d'époque. On avait une table d'époque. Il y avait quelque chose de... ouais, on s'y croyait. Et c'est, moi, j'aime bien. Moi, j'adore l'histoire. Donc, j'étais vraiment aux anges, quoi.
On sent que Monsieur de Surac est prêt à tout pour protéger sa famille. Il part à la guerre aussi. Il y a des moments très durs pour le personnage, hein.
Ah oui, complètement, oui. Et puis il est tiraillé entre sa foi, entre que son clan n'éclate pas, et sa femme qui est catholique, lui étant protestant, il essaye un peu de convaincre sa femme de le rejoindre dans le protestantisme, mais elle veut pas du tout. Donc il y avait quelque chose de, oui, comment faire quand on est un chef de clan comme ça, et un baron, pour pas que voilà toute la châtelainie explose et que tout ce qu'il a construit soit réduit ensemble. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de... Ouais, de il fallait une certaine autorité aussi, mais sans être trop autoritaire, parce que il y avait quelque chose de très tenu sur le fil comme ça, que j'ai beaucoup aimé. Et même s'il fait des erreurs dedans, il essaye au mieux de faire au mieux pour lui selon ses convictions et sa foi.
Il a quelques petits secrets quand même, on peut le dire, ce monsieur de Surac, dont un qui va réapparaître de manière un peu impromptue. Et qui va mettre un peu la pagaille dans le couple quand même.
Oui, il y a eu coucherie il y a fort longtemps, et donc il va voir son enfant illégitime de temps en temps, lui rendre visite, mais sa mère meurt, donc il décide de prendre l'enfant.
Et d'assumer sa responsabilité.
Sa responsabilité, et de prendre l'enfant au sein et de lui donner son nom, ce qui ne fait pas du tout plaisir à sa femme, qui lui en veut beaucoup. On peut la comprendre, hein, bien entendu, mais j'aimais bien le fait qu'il n'abandonne pas cet enfant et qu'il décide de de lui donner la même éducation qu'il a eue avec ses deux autres enfants légitimes. Et je trouvais ça chevaleresque, mais sa femme n'est pas du même avis.
On termine par tes projets, Nicolas. Qu'est-ce qui nous attend dans les mois qui viennent, cinéma, théâtre, télévision? Je sais que tu débordes.
Ouais, donc oui, j'ai fini la saison 2 de Cœur Noir. Voilà,
bientôt qu'on a sur Prime Vidéo.
C'est ça, exactement. Et sur France 2 aussi, hein, sûrement, parce que c'était comme ça qu'ils avaient dealé la première saison. J'ai fait Balle perdue 3 aussi, le troisième opus du film de Guillaume Pierret avec Alban Lenoir. Et j'ai fait aussi un premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Akaki Popkadze, qui est un Français d'origine géorgienne. Et on va présenter ce film au Festival de Saint-Sébastien là, dans une semaine. Et j'ai tourné ce film avec Denis Lavant, Finnegan Oldfield, Florent Ilchouaki. Et c'était un formidable film que j'espère il va sortir en octobre normalement.
Écoute, on suit tout ça, évidemment, tu sais, t'es bienvenu. Fais partie de la famille, je suis ton écoute, la téléman, non, mon cher Nicolas. On te souhaite plein de belles choses et on te retrouve ce soir dans Fortune de France à 21h05 sur France 2 pour les deux premiers épisodes. Merci à toi.
Merci à vous et merci pour votre invitation et pour votre bienveillance.
À très vite.
Merci beaucoup.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Simon Coleman lundi dernier. C'était Jean-Michel Tinivelli qui était là. Eh bien, nous avons décidé de faire la part belle aux femmes cette semaine puisqu'on va continuer après le carton de vendredi. Plus de 4,2 millions, quasiment 4,3 millions. Et encore, il n'y a pas les replays. Eh bien, on va fêter ça avec Lani Sogoyou.
Salut.
Bonjour. Bonjour Lani. Et Flavie Péan, alias Chloé Becker, évidemment, qui accompagne Simon Coleman dans ses œuvres. Bonjour, ma chère Flavie.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les deux. Alors, changement de format, changement un peu de formule de Simon Coleman. On passe aux 52 minutes. On a tous un peu les pépettes. Et là, les audiences tombent samedi matin. 4,3 millions. On est rassurés?
Ouais, on est très très contents. Ouais. C'est un beau samedi qui commence.
Ouais, c'est une belle consécration. Enfin, même nous, on savait pas trop ce que ça allait donner. Et en fait, le public est au rendez-vous et c'est vraiment une immense joie, quoi. Très content.
Je crois que Tonton Coleman, il a été adopté par le public. Et puis, à chaque fois, quand vous l'aidez dans ses enquêtes et dans ses œuvres, c'est toute une partie de plaisir pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de comédies dans Simon Coleman, au 7.
Oui, en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de comédies. On est sur une série policière très feel good. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'humour, que ce soit dans la famille, les relations qu'il entretient avec son neveu et ses nièces, ou nous, au commissariat. En plus, les personnages secondaires au commissariat ont été pas mal développés là dans les 6x52, donc on découvre un peu plus les personnages, et puis ça va permettre aussi de fidéliser les gens, puisqu'on va avoir 3 vendredis de diffusion. Il y en a un qui vient de passer, mais il y en aura 2 autres derrière. Donc ouais, on est content que ça plaise.
Et oui, encore 2 vendredis pour s'amuser effectivement avec vous. Et vendredi prochain, donc on aura le 3e et 4e épisode. On va parler un peu de vos rôles parce que si on a des auditeurs qui n'ont jamais vu Simon Coleman, qui était sur d'autres chaînes, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur donner envie d'aller tout de suite rattraper ça sur France.tv et de vous rejoindre vendredi soir? Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire déjà, Lani, sur ton rôle à toi?
Alors le personnage d'Inès, c'est un personnage à la fois qui est assez pro et qui est plein de fantaisie, qui est vraiment qui voue une petite passion secrète quand même à Simon. On va pas s'en cacher.
Il y a des femmes qui sont pas amoureuses de Jean-Michel Tinivelli, franchement.
Je ne sais pas, il faudrait lui demander. Est-ce que c'est possible? Qui s'est fait adopter aussi dans cette famille du commissariat, qui développe une certaine complicité avec le personnage de Chloé Becker, et tout ça, ça crée cette espèce de petite osmose familiale au sein du commissariat et qui répond beaucoup à ce qui se passe à la maison, et je crois que c'est ce qui est assez chouette aussi à jouer, à développer. C'est ce qu'on nous a permis dans les 6x52. Voilà, donc c'est des petits personnages qui amènent de la fantaisie, qui amènent de la légèreté aux intrigues. Voilà.
Et Chloé, depuis le premier épisode, elle est allée aux côtés de lui pour l'épauler, même des fois un peu au-delà du professionnel, parce que évidemment il a quand même les enfants aussi à charge, du coup tonton, hein, c'est pas rien.
ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie complicité qui s'installe entre les deux personnages, et même s'ils sont très très différents, parce que mon personnage Chloé Becker est très carré, très maniaque, très procédurière,
cartésienne, c'est rigoureux.
Ouais, exactement, alors que Simon Coleman est plus foutraque, c'est rigolo parce qu'ils sont à l'opposé, mais ils s'entendent très bien, ils se charrient beaucoup, il y a une grande complicité, ils se respectent dans leurs différences et ils se donnent des conseils sur ce qu'ils connaissent l'un et l'autre. Et comme voilà, ils sont très différents, ça permet de d'amener beaucoup de comédie, et puis voilà, c'est cool. Et puis c'est vrai que tout ce qui est au commissariat était pas mal développé, donc avec le personnage d'Inès, Chloé et Inès sont très complices, et mon personnage s'amuse à lui donner des petits conseils conseils par rapport à Simon Coleman sur ce qu'il aime, sur la drague, sur les trucs de filles, c'est rigolo, ouais, quoi.
On essaie de le conquérir.
Ce qui est sympa aussi, c'est que finalement, tous les personnages, même si Ted Etienne, Walika, tout ça, sont extrêmement tous différents les uns des autres. Mais je trouve que ce qui donne le côté feel good, c'est qu'il y a beaucoup de tendresse qui se développe au fur et à mesure des personnages. C'est-à-dire qu'il y a souvent des incompréhensions, des trucs un peu absurdes et tout. Mais plus ça va, et plus je trouve que même entre Simon et Chloé, on sent ce truc de tendresse qui les lie et de solidarité de plus en plus. Pareil entre les gens du commissariat. Voilà. Puis après, on va découvrir un peu les interactions entre la famille, le commissariat et tout. Mais du coup, ça va vachement là-dedans. Et je trouve que aujourd'hui, ça nous fait un peu du bien, ce truc, dans cette société où je trouve parfois on est un peu individualiste, de retrouver cette espèce de truc collectif, bah, où les gens se parlent, s'entraident, sont attachés, se regardent vivre les uns les autres, quoi. Ouais.
C'est ça qui crée aussi le succès.
Oui.
Parce que c'est justement aussi le fait que, il a fait un acte d'amour pour ses neveux et nièces quand même. Et ça crée sa force d'admiration de par ses collègues, du coup des spectateurs aussi, par écran, interposés. Je pense que c'est aussi une partie de la recette du succès de la série.
Oui, complètement. Je pense que les spectateurs et les personnages, effectivement, c'est ça qui est intéressant, ont beaucoup de tendresse pour ce Simon qui est souvent dépassé par les événements, qui est plein de bonnes intentions, qui est plein d'amour, qui sait juste pas forcément comment l'exprimer, comment s'en sortir avec cette espèce de tsunami de trois enfants à gérer en bas âge alors que c'était un peu célibataire endurci. Et donc, ouais, il y a beaucoup de tendresse et effectivement beaucoup de solidarité. On a envie de l'aider, quoi.
Mais un paquet de guests maintenant qu'il y en a dans Simon Coleman, parce que ça m'a fait rire. La semaine dernière, j'étais au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et alors, tous ceux que j'ai croisés, vous avez quoi en projet? Ah, j'ai un guest dans Simon Coleman. J'en ai eu, mais je ne sais combien dans cette saison. Vous avez été entouré magnifiquement pour cette première saison de Salve de 52 minutes.
Ouais, on a eu des super guests. C'est toujours agréable, en plus, je trouve, de recevoir des nouvelles têtes sur un programme. On est en tournage plusieurs mois, ça peut être un peu fatigant. Et d'un coup, quand il y a des têtes un peu plus fraîches qui débarquent, on est hyper content. Et puis avec des comédiens et des comédiennes de talent qu'on a parfois croisé sur d'autres tournages, donc on est content de retrouver. Et puis voilà, on essaye de les accueillir du mieux qu'on peut pour qu'il y ait une bonne ambiance, que ça se passe bien, et puis que tout le monde soit content d'être là et de faire du bon boulot aussi.
Ouais, c'est vrai que ça nous apporte toujours une petite nouvelle dynamique, un peu de fraîcheur. Souvent on retrouve des copains ou on rencontre des gens, mais chacun amène sa petite patte, et pour nous c'est toujours un peu une fête d'avoir un nouveau personnage avec qui partager ce truc là c'est souvent des bons moments, ouais.
En tout cas, j'espère qu'on va passer un bon moment vendredi soir, et j'en suis sûr, ça sera à partir de 21h05, deux nouveaux épisodes inédits. J'espère que justement, on vous a donné envie de regarder. Vous pouvez rattraper déjà, en tout cas, les deux premiers épisodes diffusés vendredi dernier sur France.tv. Flavie Lani, on va parler de vos projets pour terminer. Qu'est-ce qui vous attend dans les semaines, dans les mois à venir? Est-ce que cinéma, théâtre, télévision sont au rendez-vous?
On a appris hier soir avec beaucoup de bonheur qu'il y avait une nouvelle saison donc de Simon Coleman qui allait être en tournage à partir du mois de février. Et on va tourner 6 nouveaux épisodes de 52 minutes, donc une nouvelle saison.
Bonne nouvelle,
ouais.
Lani.
Ça, c'est une super nouvelle. On était vraiment... on l'a bien fêté. On était très heureux.
Vous avez bien eu raison, et puis nous on va continuer à fêter ça avec vous vendredi soir en étant au rendez-vous à 21h05 pour ces deux nouveaux épisodes. Merci Lani, merci Flavie, à bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Inédit.
Ça existe les plantes qui pourraient provoquer un infarctus?
Vous ne me soupçonnez pas d'être responsable de la mort de Fabien quand même?
C'est-à-dire que si.
Vous étiez où sur le terrain quand Fabien Delmas s'est écroulé?
Attention et...
Test, test, test.
C'est bon?
Ouais, c'est bon. Décroche des réseaux sociaux et tu dormiras comme un bébé, d'accord? Ces petits cœurs et ces petits pouces levés, ça devrait pas dire que...
On a réussi!
Simon Coleman est de retour dans deux épisodes inédits, vendredi soir à 21h05 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va inviter aujourd'hui Olivier Lejeune qui nous rejoint, qui est un habitué de l'émission. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous.
Ah mais mon cher Alain, mais c'est un bonheur d'être toujours avec. Et j'écoute non seulement la télé, mais surtout l'émission.
Écoute, tu as bien raison. Et puis alors, je peux te dire, j'ai de la chance de t'avoir justement pour cette rentrée, parce que tu es très occupé, mais pour plus d'un an, puisqu'on va pouvoir te retrouver dès le 13 septembre, évidemment, dans 60 jours de prison de Sacha Guitry, que tu vas jouer. Et pendant tout le premier semestre 2025, on va te retrouver dans Tout Bascule. Et puis en plus, tu vas jouer avec Jean-Pierre Castaldi au deuxième semestre 2025. Mais bref, on t'arrête plus.
Non, non, et oui, jusqu'à mai 26. Et je suis en train déjà de finir d'écrire ma prochaine pièce, qui sera ma 10e en tant qu'auteur, puisque là, en septembre, on va aussi tourner pour Paris Première. Le 21 septembre, je serai en direct avec Michel Guidoni, Julie Arnold, entre autres, dont Un cul au monstre, qui est ma 9e comédie. Et puis, en tant que metteur en scène, on va tourner pour Comédie, Louis XVI.fr de Patrick Sébastien, avec Patrick Sébastien, que également j'ai mis en scène. Donc voilà, une rentrée bien chargée comme j'aime.
Ah ben là, c'est clair, c'est bien chargé. Puis aussi ton spectacle, évidemment, que tu joues, ton one-man show, Mémoire d'éléphant, ton livre aussi. On apprend beaucoup de choses. Comment mémoriser? Parce que je crois que tu es un peu coach pour acteurs aussi, que tu aides certains acteurs à apprendre leurs textes, à mémoriser les choses, puisque Mémoire d'éléphant, ton livre, permet de donner des clés qui nous permettent non seulement de faire marcher notre mémoire, mais aussi de la développer. C'est ça qui est vraiment chouette dans ta technique. Ça nous permet aussi de nous faire travailler nous et de découvrir des choses totalement pour nous qu'on ne sait pas finalement. On a plein de choses en nous.
En fait, les mots secrets, c'est visualiser, associer. C'est-à-dire que de faire ce dont vous voulez vous souvenir, de mettre des images et de les associer à des points de repère qu'on a déjà en soi. Les Grecs et les Romains pratiquaient déjà ces méthodes-là 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, à partir du XVIIe siècle, il n'y a plus de professeur de mémoire. Donc, quand j'ai su ça, je me suis penché sur ces techniques. Je les ai mises un petit peu à ma sauce. Je les ai fait marrantes parce qu'on n'apprend que ce qu'on aime. Il faut que la mémoire, ce soit un jeu, ce soit un challenge et qu'on se marre avec. Et plus on rit, plus on dégage des endomorphines qui est un déstressant. Parce que la mémoire, ça fait peur. On devient des assistés. Les téléphones portables, on sait plus le numéro de téléphone par cœur. On a un chemin, on mémorise même plus. Même pour faire 3 kilomètres,
on met GPS.
On met GPS, alors qu'avant on avait le truc, le calcul mental. Les magasins où je vois des vendeuses, 2,20€ plus 1,10€. Elles prennent la calculette, mais on a envie de leur dire, mais où est-ce qu'on est? Donc, on devient des infirmes du cerveau. Et ça, c'est très important. Ne serait-ce que, il n'y a pas d'âge, hein, souvent il y a des personnes âgées, plus âgées que moi, qui me disent, mais monsieur, mon âge, la même. Non, ne lâchez pas prise. Voilà. Donc c'est une manière, à la fois pour la culture générale, pour apprendre à ses enfants, ses petits-enfants. J'ai fait des démonstrations à la télé en apprenant des centaines d'informations différentes très rapidement. J'ai remplacé Robert Lamoureux, comme ça j'ai appris 1100 lignes en une nuit. J'ai en une journée, j'ai appris un rôle important d'une pièce de Monterland pour le théâtre Michel à Paris. Voilà, j'ai fait quelques exploits comme ça de mnémotechnique. Je n'ai pas de mérite. C'est, je dirais, peut-être un de mes talents spécifiques. Donc je travaille ça depuis l'âge de 7 ans, j'en ai 73 maintenant. Donc mon four est chaud. Je peux enfourner n'importe quel texte, n'importe quelle chose à apprendre. Je l'apprends tout de suite, je la visualise et je la retiens durablement. En fait, c'est ça, ces méthodes mnémotechniques. Sans méthode mnémotechnique, vous voyez, il y a des verres qui se cassent. Mais c'est parce que les gens, ils en reviennent pas de ce que je dis. Donc ils laissent tomber les verres, ils laissent tomber tout. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est très jouissif de faire des progrès sur soi-même.
Alors, 60 jours de prison. Ce 13 septembre, donc du coup, que tu vas jouer, c'est une pièce de Sacha Guitry à la base. Hein.
Ce sera à Marseille, voilà, tout à fait. Oui, alors c'est un récit de Guitry passionnant, où Guitry raconte jour après jour comment on l'a traîné en pyjama à Drancy, au Veldiv, à Fresnes. On l'a menacé de le fusiller. En fait, il était accusé d'avoir été un collabo pendant la guerre. Alors que il n'a pas du tout jamais collaboré, il a été blanchi par la justice. Mais c'est vrai que les Allemands étant à Paris, le maréchal Göring notamment avait dit « qu'est-ce qu'il faut voir à Paris ?» On lui avait dit « il faut voir, monsieur le maréchal, il faut voir la Tour Eiffel, il faut voir le Louvre et il faut voir Sacha Guitry. » Il faisait partie des centres d'intérêt de la vie culturelle. C'était le roi, donc le roi du théâtre, le Molière moderne. Donc on a voulu lui couper la tête, comme souvent en France, on veut toujours couper la tête du roi.
Et donc le 21 septembre, on te retrouve ce samedi 21 septembre, ça sera donc en direct sur Paris Première pour une pièce de théâtre.
Ah mais il sait tout, mais il a pas besoin. Hey, je vous assure.
Ouais, t'as vu, moi aussi je travaille ma mémoire grâce à toi.
J'allais le dire justement, sans fiche, sans note. Oui, 21 septembre, Paris Première, en direct avec Michel Guédeni, Julie Arnold, Fabrice Cochito, Sandra Baudou. Ma 9e comédie qui s'appelle Un cul au monstre, on l'a joué une centaine de fois. Ça fait beaucoup de joie de la jouer à la télé parce qu'elle est très efficace. On rit beaucoup, énormément, et ce sera la toute dernière. Voilà, on a gardé pour la dernière de jouer ça. On sera en direct de Villeneuve-le-Roi.
Très bien, et puis à partir de janvier 2025, Ça continue, nouveau spectacle pendant 6 mois. Tu vas donc partir en tournée partout en France pour jouer une nouvelle pièce.
Alors, Tout bascule, c'est ma première pièce en tant qu'auteur. C'est une pièce incroyable. Je l'ai jouée déjà 1200 fois avec Marc Mercadier il y a 22 ans, 23 ans maintenant. Et puis, on l'a remontée en tournée régulièrement. Ça a été la pièce la plus jouée en France par toutes les troupes amateurs parce que j'avais laissé des droits. C'est fou, cette pièce, comme Tout bascule, elle a été adaptée. En Italie, j'étais la maître en scène. À Rome, elle a fait une grande tournée. Elle a été adaptée en Turquie, partout en Russie. Et donc voilà. Donc cette pièce, c'est un peu, je dirais, mon tube théâtral. Et à chaque fois qu'on la remonte, c'est un gros succès.
Et que tu reprends du coup, pendant 6 mois.
Voilà, et que je reprends. C'est la seule pièce de théâtre où il y a eu des huissiers qui sont venus envoyés par Philippe Bouvard, du temps qu'on jouait tous dans un Bobino guichet fermé. C'est la seule pièce où j'ai, je dirais, un certificat d'huissier qui garantit un rire toutes les 5 secondes. Ça n'avait jamais été fait pour une pièce de théâtre.
Tout va basculer, moi je vous le dis, début janvier 2025, et puis tu joueras aux côtés de Jean-Pierre Castaldi. Ça sera au deuxième semestre 2025, qui nous attend une toute nouvelle pièce, Olivier.
Oui, alors Monsieur Chasse de Fédot, qui est une pièce très amusante de Fédot. On va jouer, je vais être le copain d'un coureur de jupons. Évidemment, je veux, j'irai séduire sa femme. Donc on a une très belle distribution, c'est Monsieur Théâtre, le producteur. Et donc on va faire une tournée dans toute la France. Donc ça c'est en effet, c'est fin septembre, mai 26, septembre 25. Des très beaux décors. Et Jean-Pierre Castaldi, c'est la troisième fois que je le retrouve. On avait joué ensemble déjà, oh là là, il y a déjà presque 20 ans. Ça s'appelait Vacances de rêve. Et puis j'avais joué le charlatan de Robert Lamoureux il y a 7 ans avec lui. Donc voilà, c'est des retrouvailles. Et c'est un gros nounours. Jouer avec Castaldi, avec sa grosse voix comme ça, puis alors là, c'est vraiment une joie parce que d'abord il a une carrière cinématographique ahurissante et en même temps il a une humanité, il a, je dirais, il a l'œil qui frise quand on joue avec lui, c'est un bonheur de jouer avec lui.
Eh bien écoute, t'es bien occupé en tout cas, 13 septembre, on redonne hein, évidemment le rendez-vous puisqu'on te retrouve dans une pièce qui s'appelle...
Alors, 60 jours de prison, ce sera à Marseille.
Voilà.
Et sinon, toutes les autres dates, vous pouvez les trouver sur mon site. Alors, je vous donne...
C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a une page Facebook, il y a tout. Et Olivier Lejeune, attention, hein. Il est jeune d'esprit, hein, il y a tout.
Ah, je bosse. Alors, mon site, c'est www.olivierlejeune.fr. Et là, vous avez un calendrier et vous avez toutes les dates des spectacles.
Et le rendez-vous en direct sur Paris Première, ça sera donc le samedi 21 septembre. Merci beaucoup.
Mais moi, il m'épate. Je n'ai même pas besoin de l'avoir comme élève pour la mémoire. Il est doué, il est très doué. Merci beaucoup.
On t'embrasse, Olivier. À très vite.
Merci beaucoup.
Allez, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Carole Richert qui est avec nous pour nous parler de tous ses projets pour cette rentrée justement. Bonjour Carole.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, je suis très heureux de te retrouver parce que j'adore tellement Marie-France qui nous illumine depuis maintenant 14 ans dans Clem. Il y a Monsieur Parizeau qui arrive bientôt aussi, ça c'est une aventure dingue avec vraiment un épisode Camping Paradis centré sur Monsieur Parizeau, sur ce qu'il fait le reste de l'année parce qu'on a envie de savoir nous aussi. Et il y a plein de choses qui arrivent, c'est ça qui est chouette. Tu prends toujours autant de plaisir à retrouver Marie-France que tu vas retrouver encore pendant ce mois de septembre pour notre plus grand plaisir.
Eh bien oui, je réalise à quel point j'ai de l'affection pour ce personnage. Je réalise à quel point, même si par moments je me dis « Oh non, mais franchement, on pourrait la faire évoluer d'une autre façon », je me rends compte que moi-même, je reviens à la base toujours de Marie-France. C'est-à-dire que cette base qui parfois m'exaspère, eh bien finalement j'y reviens parce que je m'y suis tellement attachée.
C'est ça aussi, c'est peut-être des fois un personnage qui peut exaspérer tes spectateurs, mais qui l'aime tellement aussi. Elle est attachante par moments, justement, ce personnage.
Mais surtout, je pense qu'elle est très généreuse, c'est ouais. c'est une femme au grand cœur.
Ça déborde.
Oui, c'est une femme au grand cœur, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cœur qui parle malgré effectivement ses petites manies, mais avant tout, c'est le cœur qui parle. Donc c'est toujours bien en fait de partager la vie d'un personnage comme celui-ci.
Il faut dire quand même que c'est un personnage qui a vécu énormément de choses en 14 ans entre le deuil de son fils, vraiment l'amour inconditionnel pour Valentin, son petit-fils avec Clem, après il y a eu la naissance de Victoire, il y a eu tout ça, il en est arrivé tellement pendant ces 14 ans.
Oui, comme dans la vraie vie, en fait, comme dans la vraie vie où on partage des hauts et des bas, où la famille s'agrandit, où le temps passe, où on grandit avec les personnages, on se métamorphose avec eux. Oui, ça crée des liens, mais voilà, je crois que la force de Clem, c'est ça, en fait, c'est de raconter un peu la vie d'une famille plus ou moins épanouie en France.
Eh bien, à chaque fois on dit c'est fini. c'est la fin. Et à chaque fois, ça revient pour notre plus grand plaisir. Et vraiment, à chaque fois, par surprise, et maintenant, ça va revenir de façon un peu, justement, événementielle. Hein. L'idée, c'est plus que ça soit une série, mais que ça revienne par épisode un peu événement, comme ça, après les retrouvailles qu'on avait connues sur le dernier.
Oui, moi, je trouve que c'est une très belle idée, parce que nous-mêmes, nous sommes attachés, en fait, au public de Clem. C'est-à-dire que l'idée d'une rupture définitive, l'idée d'une série qui a tellement traversé... des générations, s'arrête comme ça, parce que, je ne sais pas, pour mille une raison, ce qui est formidable en fait, c'est de pouvoir se dire qu'on fidélise peut-être une fois par an notre relation au public avec nos personnages. Moi j'adore l'idée de retrouver Marie-France une fois par an, si c'est comme ça que ça se dessine, mais tant mieux, tant mieux.
Bonheur, Jandel, il y a quelques mois, notre micro disait avoir ce lien indéfectible maintenant avec justement avec toi, Carole, et avec ce personnage de Marie-France. Et c'est vrai que ce couple à l'écran que vous menez tous les deux a connu tellement de choses aussi, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un lien indéfectible qui vous lie tous les deux, non seulement les personnages, mais aussi vous, comédiens, du coup, avec cette histoire.
Oui, tout à fait. Les Brimont, en fait, c'est un duo. C'est-à-dire que l'énergie de Marie-France n'a de sens que par rapport à l'énergie de son mari. Et inversement, on a vraiment l'impression qu'on a créé notre jeu en fonction de l'énergie de l'un et de l'autre. Et c'est ce qui est très, très, très étonnant avec Jean, c'est qu'on a aucune difficulté à jouer ensemble. C'est d'une spontanéité et tout de suite, on se cale dans le bon rythme.
C'est le yin et le yang, les deux.
Voilà, exactement. C'est très naturel. Et évidemment, ben voilà, Jean, on va dire, bon, Jean, c'est mon mari de télé, quoi.
Exactement. Alors, il y a Monsieur Parizeau aussi. Tu as un très, très beau rôle aux côtés, évidemment, de notre Patrick Parot national, puisqu'on va découvrir enfin ce que fait Parizeau l'hiver.
Ouais, et voilà, exactement. Non, mais je sais pas exactement ce que j'ai le droit de dire. Tout ce que je peux dire, c'est que ce génial Parizeau qu'on adore, qui est fou des séries télé, un jour lui-même, à force presque d'apprendre un deuxième métier en regardant des enquêtes, va réussir très très rapidement à se rendre compte que quelque chose qui soi-disant est un accident est en fait un crime. Enfin, en tout cas, il va essayer de le démontrer. Et il va rentrer dans une famille très aristocrate. Je suis la châtelaine qui parle avec les morts, qui est un peu perchée, qui fait un peu de voyance ou des choses comme ça, etc. Donc un personnage assez exubérant. Et il va être confronté à cette famille et il va mener tranquillement sa petite enquête comme ça, l'air de...
Clémence Lassalas, il y a un très beau cast en plus autour.
Oui, vraiment, vraiment, Firmin Richard, Olivier Sitruc. Et je parle aussi du réalisateur qui s'appelle Nicolas Copin, qui est une petite machine de guerre que j'affectionne beaucoup. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Il est formidable. En plus, il est photographe, donc il est très esthète. Et on va avoir un film aussi très esthétique avec une ambiance. Je suis hyper curieuse de découvrir le film dans son intégralité parce que je pense que ça va être très très bien.
Ah, mais son travail est assez dingue. Il était assistant réalisateur pour La Petite Histoire, Nicolas, et donc il a réalisé son premier épisode de Camping Paradis. C'était sa première réalisation. Et on était sur les premiers jours de tournage à Martigues, ouais, où il a fait ses premier pas de réalisateur, donc cette petite histoire qui nous lie, et je crois que c'était l'épisode dont tu étais, il y avait Juliette Lemonnier et Rebecca Hampton, il me semble aussi dans le même, de mémoire, mais ça remonte un peu maintenant.
Ça remonte un peu, etc. Donc moi j'ai fait le premier film effectivement de Nicolas Copin. Donc j'ai cette fierté-là parce que je trouve que c'est un super réalisateur. Il a un sens, il est intuitif, il sent les scènes, il n'a pas besoin de mots, il n'a pas besoin de s'exprimer, je pense que c'est un très très bon réalisateur. Franchement, moi, Monsieur Parizeau, j'ai hâte.
Est-ce que c'est un pilote ou est-ce que ça pourrait t'amener, en tout cas, à connaître une suite, à être une collection un peu, Monsieur Parizeau, en quelque sorte ?
Franchement, j'en sais rien. C'est-à-dire que je pense que la production envisage toujours, évidemment, suite à un succès, un peu comme Clem aussi, suite à un succès, de pouvoir effectivement se dire que si cette enquête, on va dire entre guillemets, menée par Parizeau peut effectivement engendrer d'autres enquêtes, pourquoi pas.
Bon, on va te souhaiter un bon tournage, en tout cas, on te remercie d'avoir été avec nous juste avant ce tournage de Clem et de ce nouvel épisode événement qui nous attendra certainement dans le premier semestre 2025 en diffusion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Très bonne.
À bientôt, Carole.
À bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré également au documentaire Infrarouge qui sera diffusé mercredi, juste après le grand final de l'éclipse à 22h55. Ça s'appelle Détenu à ciel ouvert. Sophie Bontemps, qui est l'autrice et réalisatrice de ce documentaire, est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on va parler, c'est vraiment un film sur la réinsertion, sur la préparation à la réinsertion, puisqu'on va y suivre à la fois trois parcours de vie, ceux de Annie, de Evelyne et de Rosie, qui ont été détenues et qui vont purger leur fin de peine, en fait, dans une ferme près de Bayonne, avec une expérience absolument unique en France, puisque cette grande bâtisse a été créée pour être une alternative à une fin de détention pour réapprendre tout simplement à vivre. Et j'ai trouvé ça très très beau en fait comme concept. Comment vous êtes tombée dessus, Sophie, déjà ?
J'ai découvert l'existence de la ferme dans un reportage écrit, la presse écrite, d'un reporter plus précisément, qui a été écrit juste au moment de l'ouverture. Parce que c'était donc l'ouverture et la création du premier lieu en France et en Europe d'une structure pouvant accueillir des femmes détenues. Il existe des fermes qui accueillent des hommes détenus en fin de peine en France, il y en a quelques-uns, trois ou quatre, mais de structure pour accueillir des femmes, il n'en existait aucun. Donc j'ai trouvé que cette idée de lieu d'accueil pour des femmes qui sont encore en train de purger leurs années de prison, en train de finir leur condamnation, j'ai trouvé que c'était super intéressant, et non seulement intéressant, mais ça a éveillé en moi plein de questionnements, parce que je voulais savoir comment ça marchait, quel était l'enjeu, et quel type de condamné, en fait, cette structure accueillait, et ce qu'elle, surtout ce qu'elle, elle, les femmes qui arrivent ici, en attendaient, et qu'est-ce qu'elles allaient en faire. Et tout de suite, j'ai imaginé que c'était un lieu dans lequel, forcément, il se passait des choses fortes, des prises de conscience fortes, des évolutions déterminantes aussi, et qu'il y avait des regards intéressants à capter et des parcours de vie à interroger. Voilà. Donc, ma première réaction, c'était « Oh là là, à quoi ça ressemble cet endroit ? Je vais y aller. » Et je vais y aller non pas avec une caméra au début. J'ai commencé à aller à la ferme en tant que bénévole pour rencontrer les résidentes qui étaient là, pour rencontrer l'équipe qui les encadre et pour découvrir ce lieu. Et pour déterminer aussi, bien sûr, s'il était possible de commencer à tourner un film, un documentaire là-bas.
Alors, voilà. Et c'est que pendant un an qu'on suit effectivement la vie de ces trois femmes, c'est vraiment sur quatre saisons. À aucun moment il s'agit de juger ce pourquoi elles sont là. Évidemment, c'est ça que j'aimais aussi, c'est que on parle avant tout du futur, et c'est ça qui est bien, le futur de ces femmes, parce que on ne sait pas quel parcours elles ont eu ni pourquoi elles sont là, mais en tout cas si elles sont là, il y a une raison, ça c'est sûr. Mais ce que j'aimais vraiment dans ce documentaire, c'est qu'à aucun moment il y a du jugement, mais on suit effectivement leur parcours. Et quand on se retrouve, je vois le témoignage de certaines, mais quand effectivement elles sont dans une prison, dans une petite cellule, et que d'un seul coup elles se retrouvent dans cette grande bâtisse avec des champs partout à perte de vue, c'est assez beau en fait de voir ça.
Oui, et puis tout raconte que quand elles arrivent ici, il y a une sorte d'ivresse en fait qui les prend, parce que elles se retrouvent soudain à l'air libre. Il y a du vent, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a le ciel qui est immense, et c'est complètement déstabilisant pour ces femmes qui sortent d'une cellule, et souvent de lieux qui sont surpeuplés, parce que les cellules, elles doivent les partager. Et là, elles se retrouvent dans cet endroit où on leur dit, voilà, le directeur les accueille, et le premier mot qu'il met sur la table entre elles et lui, c'est d'abord qu'elles s'engagent à respecter tout un règlement, mais le premier mot, c'est la confiance. Donc, il va leur faire confiance, il va leur donner une confiance. Alors qu'en prison, ces femmes étaient totalement déresponsabilisées, pouvaient pas choisir d'avoir des activités, tout est imposé en prison. Vous rentrez à tel endroit, vous sortez à telle heure, vous allez en promenade, vous travaillez quand vous avez la chance de travailler ou pas, et on ne décide rien pour soi. Et là, soudain, elles se retrouvent dans un endroit où, pas à pas, très doucement, parce que ça prend beaucoup de temps, elles vont réapprendre à s'autonomiser, réapprendre à respecter un emploi du temps, puisqu'elles vont travailler à la ferme, elles vont être initiées au travail de maraîchage, donc elles ont des horaires à respecter, mais tout ça, ça se passe en l'absence totale d'autorité, ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gardien.
Oh oui, c'est un vrai sas, en fait.
Elles n'ont personne derrière, parce que dans cet endroit-là, à la ferme, elles ont une place. On leur donne une place, on leur donne la possibilité de bosser, de montrer ce dont elles sont capables.
C'est une chance, je dirais même.
Oui, c'est une vraie chance. Et donc à la fois, pour certaines d'entre elles, c'est la première fois qu'elles ont un contrat de travail. Elles s'engagent sur des horaires de boulot. Elles découvrent un travail qui est super dur. Le maraîchage, c'est dur. La terre, elle est basse, hein, et elle est basse pour tout le monde. Et donc, c'est un vrai boulot qui est éreintant. Elles découvrent ce travail-là. Elles apprennent comment on plante, comment ça pousse, quelle plante prend bien, quel endroit, qu'est-ce qu'on doit arracher, pas arracher, qu'est-ce qu'on va récolter au fil des saisons. Donc, elle voit ce que les fruits, les légumes qui sortent de terre et qu'elles ont elles-mêmes planté, c'est très valorisant. Ça leur donne une idée du rapport au temps. C'est-à-dire que les choses se passent pas en 10 secondes, mais il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps pour changer. Il faut du temps pour que ça pousse. Les fraises, il faut du temps pour que ça pousse. Les tomates, il faut du temps. Il faut arroser. Et ça, c'est extrêmement pédago. Enfin, moi, je trouve, je connaissais rien non plus en maraîchage, hein, donc je découvrais en même temps. Je trouvais que c'était extrêmement formateur. C'est-à-dire, il faut attendre. L'hiver, ça gèle, on va attendre le printemps, on va attendre que ça se réchauffe, on va attendre que la plante sorte et on va l'aider à pousser. Et je trouvais ça très beau, déjà, comme image. C'est pour ça aussi que j'ai voulu venir pendant 4 saisons et 4 saisons différentes, parce qu'évidemment, elle vivait les saisons complètement avec des états d'âme complètement différents. Je disais que quand elles arrivaient là, il y avait une espèce d'ivresse qui les prenait, parce que la nature, l'air libre, avoir sa chambre, sa salle de bain, tout ça était très nouveau et très grisant. Mais très vite, elles se rendent compte aussi que même s'il n'y a pas de gardien, même s'il n'y a pas de barbelé, même s'il n'y a pas de clôture, il y a des engagements qu'elles ont pris, il y a un règlement qu'elles doivent respecter, et elles ne sont pas libres. Elles ont toujours une condamnation qui court, il faut qu'elles finissent. Certaines, c'est 6 mois, d'autres, c'est 8 mois, d'autres, c'est 1 an.
C'est un peu une épée de Damoclès quand même qui reste au-dessus d'elles,
oui,
malgré tout.
Oui, et ça, c'est très dur, en fait. C'est dur d'être dans une apparente liberté et de ne pas être complètement libre, puisqu'elles restent des personnes sous main de justice. Donc, si elles s'en vont, c'est ce qu'on raconte avec Annie, qui nous emmène au bout du chemin de la ferme. Elle nous montre, elle dit voilà, là, de ce côté-là, avec son pied, elle met son pied sur la route. Elle dit de ce côté-là, je suis à l'extérieur. Là, je suis à l'intérieur. Et en fait, ce sont des frontières extrêmement fragiles entre le monde ferme, enfin. Le monde fermé, ce qu'elles doivent respecter, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas sortir, et puis l'extérieur. Et c'est très tentant d'aller sur la route tout au bout. Mais elles peuvent pas, parce qu'elles sont toujours en train de purger leur peine, et elles peuvent pas sortir. Sinon, on va considérer qu'elles sont en état d'évasion, et à ce moment-là.
Et, oui. Et ça redevient des
fugitives. À ce moment-là, c'est terrible.
Mmh.
Ouais,
elles deviennent
évadées, et il y en a très peu qui l'ont fait, en fait. Il y a eu que deux ou trois évasions depuis l'ouverture de la ferme. C'est tout, ce qui est rien du tout.
Ouais, la confiance fonctionne quand même.
Et ça fonctionne très bien. Mais ce que je tiens à dire, c'est que si on a l'idée que, c'est facile pour ces filles-là, elles se retrouvent dans cette ferme, ça ressemble vaguement à une grande colonie de vacances, bon d'accord, elles doivent travailler, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas du tout ça, quoi. Elles sont toujours sous main de justice, elles peuvent pas partir, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, malgré les apparences de liberté qui sont données. Voilà. Et ça, c'est difficile d'avoir ça en tête tout le temps quand on est à la ferme. Je trouvais que c'était un vrai challenge pour elles, et pour elles toutes. C'est-à-dire qu'au début, elles sont super contentes, elles sont vraiment dans une ivresse totale. Ce que je comprends, elles respirent, elles se retrouvent l'air, elles profitent de cette nature qui est à portée de main, et puis quelques temps après, elle passe à un autre état d'âme et état de conscience, c'est-à-dire que ça devient un peu plus difficile. Et puis le travail est difficile aussi, parce que travailler de 8h à 13h dans les champs, c'est vraiment pas facile, hiver comme été. Et puis ça devient difficile parce que le temps leur paraît aussi un peu long, parce que ça reste malgré tout une peine de prison à purger. Et tout ça, moi je voulais rester longtemps et avoir la possibilité de tourner longtemps et sur plusieurs saisons et sur plusieurs mois. On a tourné un peu plus d'un an pour ressentir tout ça et capter tout ça. Et effectivement, on a suivi donc plusieurs personnages, dont Evelyne, par exemple, pendant 2 mois ou 3 mois, elle était en arrêt de travail parce qu'elle avait super mal. Elle s'est fait mal au genou, elle s'est fait mal au dos, et toutes régulièrement se blessaient comme ça au travail. D'autres en se lasser de cette routine, comme on peut se lasser aussi d'être enfermé en prison. Enfin voilà, tout ça, c'était des points de vue que je n'aurais pas pu saisir sur un tournage qui n'aurait duré qu'un mois, par exemple. Et ça m'apportait vraiment de venir sur un temps long comme ça pour d'abord les suivre pas à pas un peu, ces 3 femmes-là, et suivre aussi leurs états d'âme, leurs interrogations, leurs doutes, leur colère, leurs engueulades entre elles, les mauvaises nouvelles aussi qu'elles reçoivent de l'extérieur, etc., etc. Et leurs rêves aussi, parce que quand même, elles nourrissent des espoirs pour la sortie. Donc voilà, tout ça n'aurait pas pu se faire si on avait tourné sur un temps beaucoup plus court. Malgré ces apparences, oh là là, c'est chouette, c'est super sympa. Non, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et ça, on pouvait le capter et le tourner seulement sur une période longue.
Et c'est ce qu'on va voir en regardant Détenu à ciel ouvert. Ça sera donc mercredi à 22h55 sur France 2, juste après le final de l'éclipse. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous, en tout cas pour en parler.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Rêve un peu en prison, mon fou. Là, quand je suis arrivée, que j'ai vu tout cet espace, tout ces... La vue sur la forêt, pour moi, c'est magique, quoi. Franchement. J'étais enfermée, bon. Manque d'oxygène, on peut le dire, quoi. J'étais tout le temps dans une petite cellule, en plus, on était quatre. Prends un peu l'air, on est 22h sur 24 en cellule, en fait, en total.
Et dans un instant, le palmarès complet de cette édition 2024 du Festival de la Fiction avec les réactions exclusives des lauréats. C'est tout de suite après une petite pause.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
Il faudrait juste que j'arrête de trop penser, de vivre dans ma tête pour enfin avancer. Je repense à toutes ces fois où j'ai pu tomber, ces moments de doute sans savoir m'aimer. J'aimerais devenir celle que j'imagine, celle qui s'affirme, pas celle qui désire. Je veux chanter tout ce qui m'abîme pour me libérer. J'ai tant de choses à dire. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de me sentir libre, de me sentir libre. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de me sentir libre, oh, me sentir libre. Ah ah ah, me sentir libre. Ah ah ah. Je sais que ça te paraît fou, mais je connais la porte de secours. En chemin j'ai trouvé la source du potentiel que je détiens. J'ai cherché à me modifier, à rentrer dans tous ces cas sans trouver ma place. Et j'ai donné, tout s'est aligné, la suite en vérité dépend de tes idées. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de me sentir libre, de me sentir libre. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de me sentir libre, de me sentir libre. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de me sentir libre, de me sentir libre. Aujourd'hui j'ai plus peur, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de me sentir libre, oh, me sentir libre, oh, oh, me sentir libre, oh, oh, me sentir libre, me sentir libre.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, on démarre notre spécial festival de la fiction télé de La Rochelle avec le palmarès complet de cette édition 2024 avec la meilleure musique qui a été attribuée à Eric Neveu pour la série Sentinelle Ukraine qui sera diffusée prochainement sur Ciné+ OCS. Le meilleur scénario est pour Catel Guillou et Benoît Marquisio pour la série Enjoy qui sortira le 20 septembre sur la plateforme France.tv rubrique slash. La meilleure réalisation a été attribuée à Gustave Kervern pour le téléfilm Je ne me laisserai plus faire qui sera diffusé bientôt sur Arte. Et puis le prix du jeune espoir masculin a été attribué à Jean-Désiré Aunier pour la série Enjoy également. Jean-Désiré était à notre micro.
Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, je ne m'y attendais pas et ça fait plaisir. Et ouais, on verra par la suite ce qui adviendra de la suite. Ouais.
Là, on récompense vraiment Abel, là, du coup, au personnage.
Ouais, c'est sûr, on récompense le personnage et sans doute tout le projet en soi, je pense, et les efforts qui ont été portés pour raconter cette histoire.
Alors, Jean-Désiré, justement, tu viendras avec toute l'équipe parler de Enjoy dans Chut, on écoute la télé. On sera très heureux de t'accueillir. En tout cas, une super série à découvrir dès le 20 septembre. Merci à toi. et bravo.
Merci beaucoup. Enjoy, allez voir, 20 septembre, exact. Très belle série, très belle série.
Et puis pour le prix du jeune espoir féminin, tous les deux qui sont donc par l'Adami, qui sont dotés par l'Adami, eh bien c'est Capucine Valmarie qui l'a décroché avec son rôle dans Béni soit Sixtine qu'on découvrira bientôt sur France 2 d'après le roman de Maïlys Adémar. On écoute tout de suite la réaction de Capucine Valmarie.
Je suis très contente. J'ai un peu perdu mes moyens et toutes les choses... Voilà, tous les gens que j'aurais aimé remercier, j'ai pas vraiment pu les remercier. Et mais voilà, je le fais là, vu que je l'ai pas fait sur la scène. Le fait que je voulais remercier vraiment l'équipe technique qui a été incroyable pendant tout le tournage, qui nous a soutenus contre vents et marées. Et voilà, et pour toutes les femmes qui vivent des violences, quelles qu'elles soient. J'envoie tout mon amour et toute ma force.
T'es fière ?
Oui, je crois.
Il y a de quoi. Tu portes le film vraiment littéralement et franchement, on va te retrouver très bientôt dans Chute en écoute la télé pour en parler avec toute ton équipe justement où tu viendras au moment de la diffusion. Alors on t'attend de pied ferme. Hein.
Très bien.
À très vite, Capucine. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Dans la catégorie meilleur acteur, c'est Nicolas Duvauchel et Guillaume Guix qui l'emportent ex aequo dans Fortune de France qui débarque ce soir donc sur France 2. Pour le prix de la meilleure série francophone étrangère moins de 20 minutes, c'est Les Météorites, une série canadienne qui l'emporte. Et pour la meilleure fiction francophone, c'est la série Femme qui est également canadienne sur un format de 10 fois 24 minutes. Et puis on va parler de la meilleure actrice, c'est Cécile Bois qui l'emporte pour son rôle dans le téléfilm Signalement de Éric Métayer qui sera diffusé bientôt sur France 2. Et à cette occasion, Éric Métayer était là pour représenter l'actrice lors de cette cérémonie de clôture.
Je suis très fier, elle m'a fait un coup de salaud, comme on dirait. C'est que j'ai pas lu le texte de ce qu'elle allait dire parce qu'elle n'est pas là, elle est en tournage. Et ça, j'ai eu un gros choc en lisant le truc. Mais je suis très fier parce que ce soit Odile Villemain et elle, elles tiennent ces deux femmes avec des rôles difficiles et ce qu'a fait Cécile est remarquable, je veux dire, et surtout je la remercie énormément parce qu'elle m'a fait extrêmement confiance et qu'on peut pas réaliser si quelqu'un vous fait pas confiance.
Merci Eric. On continue à dérouler avec la meilleure fiction européenne qui a été attribuée à Lost Boy and Fairies, une série britannique qui a été présentée. Pour la meilleure série d'un format de 20 minutes, c'est Des gens bien ordinaires, le chapitre 2, réalisé et créé par Ovidie et qui sera diffusé bientôt sur Canal+, qui l'emporte. Pour la meilleure série de 26 minutes, c'est une création décalée Canal+, sur un format de 6 fois 26 minutes, c'est donc la série Iris qui l'emporte, qui est notamment produit par Jonathan Cohen et Benjamin Belcourt, avec à la direction d'acteur Doria Tillier. Et puis la meilleure série 52 minutes, c'est donc Nismet qui l'emporte, une fiction pour Arte en 4 fois 40 minutes de Philippe Faucon, Emma Boulanoir et la véritable Nismet justement était à notre micro pour réagir.
On est super heureuse, vraiment, on tremble, on sait pas quoi dire, on est trop contente, vraiment.
Et la vraie Nismet?
Moi, je réalise pas encore tout à fait bien ce qui se passe, mais en tout cas, avec une équipe d'enfer comme Lubna Bidar, Théo, Emma, Renaud, enfin Philippe Faucon, et je vais certainement en oublier quelques-uns, mais avec cette équipe de fous malades qu'on a eu sur le tournage et de avant et après, pendant, c'est mérité pour l'équipe et je suis très 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 contente.
On raconte ton histoire, Nismet, et on en parlera évidemment puisque vous serez nos invités lors de la diffusion sur Arte. C'est bientôt. Bravo, Emma, qu'on suit depuis déjà longtemps. Et bravo à la vraie Nismet. Bravo, les filles. À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et puis comme le jury a eu du mal à se départager, il a donc sorti de son chapeau une mention spéciale pour la nouvelle série de TF1 Flashback qui sera bientôt diffusée, qui est produite par les créateurs de HPI et qui voit au casting Constance Gay, Julien Pestel ou encore Michael Youn qui était à notre micro.
Oui, alors j'ai eu une réaction un peu décalée puisque en fait quand ils ont remis le prix de la meilleure série et que c'était pas nous, du coup je suis parti au Wawa faire un pipi
Et tu t'attendais pas à celle-là?
Mais non, je m'y attendais pas. Et ils sont revenus me chercher dans les toilettes. Le temps de Clojet, bon, enfin, tu connais l'histoire, hein.
Oui, bah, je t'avoue que j'ai vu Constance courir et le temps qu'elle revienne.
Voilà, il faut bon. En plus, on avait bu un peu de bière, donc voilà. Ce qui fait que j'ai raté la danse. Mais bon, c'est super parce que c'est vrai que dans les festivals, c'est toujours de fiction, c'est toujours un peu difficile de récompenser la comédie. Parce qu'il y a des sujets qui sont fondamentaux dans les fictions qui sont plus dramatiques. Ça parle de l'enfance, ça parle de la place de la femme, ça parle de la violence de la société, ça parle des exclus. Et c'est sûr qu'au milieu de tout ça, tu te dis, bon, on a bien rigolé, mais eh ben, c'est formidable d'avoir créé un prix en plus pour nous récompenser.
Et puis je peux vous dire que Flashback, ça va déchirer quand ça va être diffusé. Je vous le dis, on recevra toute une partie de l'équipe Mon Mika et bravo. J'espère te porter un peu chance la dernière fois que tu étais en compète. T'as eu le prix.
J'aurais dû te croire, tu me l'as dit en plus. Tu m'as dit à chaque fois que je suis là, t'as un prix. Et je t'ai pas cru. Je suis un con.
Je t'embrasse mon Mika, à bientôt.
Bisous, bisous, bisous.
Et puis quelques prix pour les collégiens de Charente-Maritime qui ont décroché donc du chapeau le prix de la meilleure série pour des gens bien ordinaires pour Canal+. Le prix de la presse étrangère Unifrance a été attribué au film À l'épreuve pour France Télévisions. Le prix de la meilleure fiction télé-loisirs est pour Les Baudins s'enquêtent en Corse pour M6. Le prix de la meilleure série télé-loisirs est pour Le Négociateur pour TF1. Le prix de la meilleure comédienne télé loisirs, c'est Audrey Fleurot qui l'emporte pour son rôle dans Infiltré. Et puis le prix du meilleur comédien télé loisirs, c'est pour Tom Villa pour son rôle dans Mademoiselle Holmes. Et puis enfin, le grand prix de cette édition 2024, c'est à nouveau Hakim Isker qui l'emporte. À 2 ans d'intervalle, Hakim Isker donc récidive et l'emporte avec son film À l'épreuve qui sera diffusé le 25 septembre prochain sur France 2. Il l'emporte avec le prix du meilleur film. Et au casting, c'est une véritable héroïne qu'on découvrira, Francky Wallach, qui a réagi à notre micro et qu'on aura le plaisir également d'accueillir lundi prochain dans Chut, on écoute la télé.
Je suis trop heureuse, c'est la première fois de ma vie où je participe à un projet qui gagne un prix. Et je suis très fière d'Hakim, je suis très fière de toute l'équipe et j'ai l'impression qu'en plus à chaque fois qu'on nous a remis le prix, à chaque fois qu'on nous a un commentaire, c'était pour saluer des choses qu'on a vraiment voulu partager avec ce film, donc je suis ravie.
Un prix collectif en plus, rien de beau, et le prix du meilleur film, enfin, c'est le Graal.
C'est trop beau, c'est trop beau et c'est très touchant, les mots de Thierry Godard et qui salue ce duo réalisateur-actrice parce que je pense que vraiment avec Hakim on s'est trouvé et c'est beaucoup de bonheur.
On te retrouve bientôt dans Chut, on écoute la télé avec toute l'équipe pour parler justement de À l'épreuve. Nous, on a eu un gros coup de cœur justement aussi et on en parlera très très vite lors de la diffusion. Francky, bravo.
Merci beaucoup, merci La Rochelle, merci tout le monde.
Voilà donc pour le palmarès de cette édition 2024 du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Je voudrais adresser quelques remerciements déjà à nos partenaires, à la Nouvelle Brasserie des Dames, le Brada, qui nous a accueillis pendant les émissions qu'on a pu vous proposer en vidéo sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez toujours bien sûr revoir. On va remercier également bien sûr aussi l'Apart City de La Rochelle qui nous a accueillis dans des conditions idylliques à 10 minutes du Vieux-Port et qui nous a permis de couvrir effectivement cette édition dans les meilleures conditions possibles. Merci à Sophie Réville, la présidente du festival cette année, qui nous a offert de très très beaux moments. Merci à la directrice du festival, Pauline Ertaud, pour sa confiance sans faille à notre égard. Merci à nos anges d'attaché de presse, à Amélie, à Magali, à Jérémy qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine et à toutes leurs équipes. Ils ont été absolument extraordinaires. Merci à tous les attachés de presse des chaînes de télé qui nous ont accompagnés durant toute cette semaine et qui vont nous permettre également de distiller tout au long de cette saison de magnifiques interviews avec de très belles rencontres à vous proposer. Merci à toutes les équipes de TF1, de France Télévisions, de M6, de Canal+, de OCS ou encore de la plateforme Max aussi, voilà, tout le monde a été absolument formidable avec nous. Alors merci vraiment, encore une fois, du fond du cœur, et rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2025 du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle.
Lundi prochain dans Chut, on écoute la télé.
Et puis lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On va encore être bien occupé, hein, du coup, puisqu'on va recevoir l'équipe du téléfilm À l'épreuve, qui vient de décrocher le prix du meilleur téléfilm au Festival de la fiction. Hakim Isker, Francky Wallach seront notamment avec nous. Et puis on aura également un gros coup de cœur cinéma pour le film Vivre, Mourir, Renaître. Gaël Morel, Victor Belmondo, Lou Crampros et Théo Christine seront nos invités exceptionnels pour en parler. On parlera également de la fiction Insoupçonnable qui va bientôt débarquer sur France 2. Beaucoup, beaucoup de surprises, alors surtout restez connectés.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et je vous invite à rester connectés avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connectés avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.